49, un excellent lundi, 418-971-101, s'il se passe quoi que ce soit sur la route ou encore vous voulez communiquer avec nous. Elle nous fait grâce de sa présence en studio, vêtue de ses plus beaux atouts.
Elle est habillée en été.
En été.
C'est l'été.
C'est ça.
Bronzée. Elle vient nous parler de politique.
Moi, je bronze pas. Ça, c'est faux.
Mais là, je trouvais que c'était un mensonge.
Mais c'est un petit bronzage naturel.
Ben.
T'es italienne.
Ouais, mais je trouve que l'Italie, c'est pas transposé en bronzage. Ben.
Moi, j'ai deux gars. J'en ai un qui est blême comme un drap, là. Blême, ouais. Comme une pinte de lait. Puis j'en ai un autre qui est blond, les yeux bleus.
Mais il bronze puis, comme rien, genre?
Il bronze, là, comme si c'était un habitant d'Afrique. Là.
Mais ça, ça c'est fait ça. La jalousie dans la famille. Ma sœur, c'est ton gars qui reste blanc.
Ouais.
Elle s'appelle Mel. On l'a appelée Milk toute notre jeunesse, mais il n'y a rien à faire avec elle, là.
Mais non, puis ça, c'est plate quand tu bronzes pas. Quand t'es jeune, tu veux être bronzé, c'était à la mode en plus, moi, quand j'étais jeune. Fait que là, tu forces la note, là. Tu te mets de l'huile, puis là, ouais. Tu vas au soleil, puisque tu te dis, un jour, je vais être bronzé.
C'est tellement dangereux.
C'est tellement mauvais pour la santé. Mais ça fait plusieurs années maintenant que je m'assume dans ma blancheur et mes taches de
rousseur. Mais c'est revenu à la mode, ça, alors t'es correct.
Ouais, OK, mais on va pas faire une chronique de skincare aujourd'hui, là. Je finis là-dessus, mais c'est vrai que quand t'es bronzé, on dirait que t'as les dents plus blanches, t'as l'air moins fatigué, on voit moins les cernes, ouais. On voit moins notre acné.
C'est ça le truc.
Ouais, fait que bref, vive le spray-tan, c'est ça de même.
On a un nouveau chef avec le Parti libéral du Québec, Pablo.
Pablo!
Pablo! Ses plus grands faits d'armes, à mes yeux, à moi, c'est sa belle chevelure.
Mais effectivement une très belle chevelure.
Au fédéral, c'est quoi le bilan de cet individu-là?
Mais il a quand même occupé des postes importants. Ouais. Ici, dans la région, on pourrait penser au pont de Québec, là, qui s'est réglé il y a quelques... un an maintenant, à peu près, pour le pont de Québec. Bon, c'est ce qui me vient à l'esprit.
Ouais.
Mais c'est sûr que quand on pense en ce moment au gouvernement Trudeau, on pense pas nécessairement à tant des accomplissements.
Non.
Qu'au déficit, qu'à la fin de régime de Justin Trudeau. Puis étant donné que Pablo a annoncé avant le retour de Mark Carney, en fait, pas le retour, mais l'arrivée du sauveur, le Mark Carney, et le retour dans l'arène politique du PLC qu'on croyait perdu pour plusieurs années, c'était sûr qu'il y aurait un gouvernement conservateur et tout, bien, on n'associe pas nécessairement Pablo Rodriguez avec... ce bout-là, en fait, ce bout-là de l'histoire du Parti libéral du Canada, on l'associe vraiment plus à l'époque Trudeau.
C'est un gars qui a appuyé Justin Trudeau dans toutes ses dépenses. Il arrive dans un parti au provincial qui a toujours été reconnu comme un parti qui était très proche de son argent. Il va falloir qu'il s'adapte, là.
Bien, Parti libéral du Québec, c'est le parti, le je le mets entre guillemets, de l'économie. Par moment, oui, de la rigueur budgétaire. Sous Philippe Couillard, Martin Coiteux, Carlos Letao, c'était les années qu'on appelait d'austérité.
Une épicerie 75$.
Puis, ouais. Oui, l'épicerie à 75$. Pauvre Philippe Couillard.
C'est un peu moins pire à ce moment-là. Imagine si quelqu'un sortait ça, là.
Bien, le 75$ de nos jours, là, c'est vraiment... Ça serait pas possible. Philippe Couillard, quand il avait sorti l'épicerie à 75$, nous donnait même des recettes.
Oui.
Moi, je veux m'en rappeler. Toute ma vie était là. Bon, tu t'achètes un rôti de porc. Après ça, tu fais un macaroni avec ton rôti de porc. Après ça, j'étais comme, arrête, Philippe, arrête. Oui, mais c'était concret, mais bon. Pour revenir au Parti libéral d'aujourd'hui, on essaie d'aller rechercher un peu cette espèce de branding du Parti de l'économie, le Parti des chambres de commerce. C'est sûr que quand on regarde les adversaires de Pablo Rodriguez, donc M. Milliard, qui était à la tête de la Fédération des chambres de commerce, ouais. Et Carl Blackburn, qui était à la tête du Conseil du patronat, on avait l'impression que c'était plus des candidats qui étaient proches de ce branding qu'on essaie d'aller rechercher qu'un Pablo Rodriguez, mm-hmm. qui arrive avec, évidemment, le bagage du gouvernement Trudeau et les déficits qui vont avec.
Tu sais, je regardais Charles Milliard au début de sa course, où j'en avais parlé avec les auditeurs et
ton
Pascal.
Poulain. Ouais,
c'était le mien. Poulain. Il partait avec quoi? 1% des intentions de vote. Il y avait un déficit de popularité qui était juste hallucinant. Puis il a scoré à 48% au deuxième tour contre un 52, à peu près.
Il a
52,
tellement
53.
Fait terrain, ça me faisait halluciner.
Vraiment?
Il était partout. Il a
partout.
Travaillé fort.
Bien, tout le monde a travaillé fort. Bon, si on regarde les trois campagnes, là,
oui.
Je pense que tout le monde a quand même beaucoup travaillé. Il y avait pas mal de débats aussi. On avait 5 débats des candidats un peu partout au Québec. C'est vrai que Charles Milliard, on l'a vu partout en région, sur le terrain, etc. Carl Blackburn, lui, est arrivé plus tard dans la course.
Il y
avait
un cancer, de ce que je comprends.
Donc, il y avait des traitements et quand il a eu le goût de son médecin puis de sa famille aussi pour y aller, il est allé. Mais on le voyait en fin de semaine, là, après la victoire de Pablo Rodriguez, de dire qu'il trouvait qu'il est arrivé un peu tard puis il se demande évidemment qu'est-ce qui aurait pu arriver s'il avait fait la course au complet. Évidemment, on est un peu aussi dans les spins de campagne, c'est normal. Mais l'équipe de Pablo Rodriguez aussi ont travaillé très, très fort. C'est juste que ça paraissait moins, parce que c'est pas une course qui a reçu énormément d'attention médiatique. Il s'est tellement passé d'autres choses. Et puis, tu sais, juste pour vous donner un exemple, là, vendredi, j'étais à la télévision et on avait décidé dans nos sujets qu'on allait parler de la course libérale. C'est la fin de la course, à quoi on s'attend pour demain. Puis là, ben, Israël se met à envoyer des bombes sur l'Iran, puis c'est terminé. Ils ont tombé en émission spéciale, puis on n'a pas... Tu sais, ça a été comme ça tout le long de la course à la chefferie. Donc, pour quelqu'un comme Charles Milliard, ton poulain, qui n'avait pas une grande notoriété du public, c'est sûr que quand on ne parle jamais de la course à la chefferie, moi, je voyais un avantage pour un Pablo Rodriguez qui est plus connu.
Mais il y avait plus le profil pour devenir chef du Parti libéral que Pablo, mais des fois, j'ai l'impression que la politique, c'est un concours de popularité, là, surtout en ce qui a trait au vote des membres, parce que je jasais avec des gens qui sont assez politisés, puis je leur demandais exactement ce que je t'ai dit tantôt. C'est quoi le constat de Pablo Rodriguez au fédéral? Ça a été quoi ces faits d'armes? Qu'est-ce qui vous a marqué? Puis très peu ont été capables de me dire quoi que ce soit, si ce n'est que sa belle chevelure.
Ben moi, j'avais le pont de Québec. J'étais prête, je savais que tu allais me poser la question.
Comment il va faire pour rentrer sur la Côte-Nord, Pablo? Comment il va faire pour rentrer en Gaspésie? Comment il va faire pour rentrer en Beauce avec le profil qu'il a? Mm. Tu sais, en Beauce, ils sont très de centre-droit. Là, ils font leurs affaires. Ils veulent absolument que l'argent qu'on envoie au gouvernement se soit bien investi. Puis ils veulent pas de bâton dans les roues, ils bosseront. T'arrives avec un gars qui a tout le temps été en politique, qui est un gestionnaire en communication, qui est un très bon communicateur. Il va-tu être capable de connecter avec ces gens-là des régions?
Bien, en fait, je n'ai aucune idée du positionnement qu'il va faire prendre à son parti. Parce que si on regarde le Parti libéral du Québec, dépendamment qui est à sa tête, il y a quand même des changements de position importants. Par exemple, si on pense à Philippe Couillard, Martin Coiteux, comme on disait tantôt, on est tombé dans une espèce de paradigme de coupure budgétaire, de rigueur, etc., alors que Dominique Anglade, qui, elle, avait un profil assez économique, centre-droit, elle avait déjà été à la CAQ. Bon, on aurait pu s'attendre à avoir quelque chose de similaire à Philippe Couillard. Elle avait été ministre de l'économie, d'ailleurs, sous le gouvernement de Philippe Couillard. Et pourtant, elle a fait faire un virage à gauche à sa formation politique. Et elle s'est entourée de gens qui pensaient un peu comme ça, effectivement, aussi. Donc, est-ce que, parce qu'on s'attend à ce que Pablo Rodriguez fasse un peu la succursale du Parti libéral du Canada au PLQ, est-ce que c'est vraiment ça qui va arriver? Je ne peux pas vous le dire. Et moi, quelque chose que je trouve qui est une faiblesse chez Pablo Rodriguez, c'est qu'on ne va jamais en profondeur dans les idées. J'en ai écouté là, des débats du Parti libéral pendant la course à la chefferie. J'ai écouté des entrevues de Pablo Rodriguez et je ne trouve pas que la pensée est très développée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas une. Mais moi, je ne l'ai pas entendu
encore comme avec une certaine profondeur.
Son discours en fin de semaine de victoire, ben le plus loin qu'il est allé du côté du positionnement, c'est de dire on veut pas de référendum, puis la CAQ, c'est des tout croches. Puis j'étais comme, OK, mais toi, tu proposes quoi comme Québec?
Mais c'est-tu un peu le résultat de ce qu'on a actuellement en politique, tu sais, dans les dernières années, par rapport à un vote qui a été fait, par rapport à un parti qui a été élu? Il faut connaître la personne. Il faut que la personne fasse jaser d'elle, en bien ou en mal, mais les gens, devant un bulletin de vote, vont faire, je le connais, moi, Pablo Rodriguez versus un Charles Milliard. Est-ce que c'est ça qu'ils ont choisi au niveau du Parti libéral en se disant, on n'a pas trop le choix, parce que si on met déjà Charles Milliard, ben on perd un peu de possibilité aux prochaines élections face à un François Legault, par exemple.
Ben, je pense qu'ils ont choisi effectivement quelqu'un qui avait de l'expérience et qui avait de la notoriété. Ils se sont imaginés en campagne électorale, probablement en se disant « ça va être un bon campaigner, il y a de l'expérience, les autres, je ne le sais pas », plutôt que d'y aller du côté des idées. Quoique ça peut être aussi ça qui motive le choix des membres. Moi, je ne suis pas dans la tête de chacun des membres qui a choisi en fin de semaine.
Mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus stratégique. Parce que c'est tellement serré avec Charles Milliard, je me disais.
C'est ça. Le résultat était quand même serré.
Oui.
Donc, c'était pas là, une victoire qui était éclatante et hyper claire. Mais c'est vrai que, puis pour revenir à ce que disait Yannick sur les régions, c'est sûr que ça va être un défi supplémentaire. On sentait que M. Blackburn et M. Milliard avaient un potentiel de connexion avec les régions qui est plus fort. On sent aussi que pour reconnecter avec l'électorat francophone en général, pas seulement dans les régions, mais partout, puis dans la région de Montréal aussi, puis dans la région de Québec aussi, que Pablo Rodriguez part avec une longueur de retard sur les deux autres candidats. Et on le sent qu'il est beaucoup plus conforme au caucus actuel du Parti libéral du Québec, ouais, qui est 100 % montréalais.
Dans une stratégie, admettons, moi, je me suis amusée en fin de semaine. Là, quand il y a eu élection, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'aurais primé au sein du Parti libéral? Ben, peut-être justement un Charles Millard et autres pour reconstruire une crédibilité, remettre un axe au sein du parti, celui qui est parti depuis des années et qu'on cherche, dont l'essence.
Puis quelqu'un qui n'a pas de passif avec lui.
Qui n'a pas de passif et qui ne risque pas de refaire crouler le parti et qu'on se redemande la direction du dit parti, ouais, si ça ne va pas, pour ensuite peut-être aller reconquérir à nouveau une Marois Risky qui va faire un test 2 dans quelques années.
Bien sûr, on va la revoir.
Mais ça aurait été ça, moi.
Donc, un autre chef de transition. Là.
Mais un vrai sincère
moi,
avec un
Pablo,
lien
là.
Concret.
Moi, c'est ce que je vois en Pablo.
Non, je parlais de Charles. Là.
Okay.
Ouais, j'ai parlé de cette stratégie.
Mais moi je pense pas que ça va être un chef de transition nécessairement.
J'ai pas la même vision.
Je pense qu'en 2026, il va tellement avoir un rebrassage avec la CAQ qui s'écroule. On peut spéculer puis se demander si c'est possible de remonter après ce qui est en train de se passer à la CAQ. Le PQ s'est positionné comme l'alternative. Il y a on sent qu'il y a un fort appui pour les idées nationalistes quand même, hein, au Québec. T'sais, toutes les questions d'immigration, de langue française, de laïcité, quand ouais, on fait des
mais
sondages.
Mais pas de référendum.
Mais la question du référendum peut faire peur. Puis moi, quand je travaillais au PQ jadis, naguère, les libéraux avaient juste écrit référendum. Puis
Voldemort
ça,
était dans la place.
C'était Voldemort.
Il n'y a personne qui parle de ça. T'sais. Pablo Rodriguez en a parler en fin de semaine, mais il n'y a personne qui parle de ça. Là,
non, c'est ça,
la,
mais
la
c'est...
La preuve est qu'il n'y a personne qui veut la séparation du Québec du Canada, puis t'as PSPP ben, qui dit c'est mon point 1, mais tout le monde veut voter pour lui.
Quand même 40 % des gens qui pensent que le Québec devrait être un pays, cela dit.
Mais il y a quand même 60 % des gens qui ne veulent rien savoir, puis tous ces 60 %-là vont probablement voter pour Paul Saint-Pierre Plamondon aux prochaines élections.
Ben, c'est ça. Moi, quand, par exemple, le PQ est allé remporter l'élection partielle dans Jean Talon, qui est ma circonscription, je peux vous dire que c'est pas la circonscription la plus souveraineté.
Ça crée pas séparation.
Non, pas bien à tous les coins de rue, mais les gens avaient identifié en le Parti québécois une alternative. Paul Saint-Pierre Plamondon avait quelque chose de rafraîchissant.
Ouais.
Ça n'avait pas beaucoup d'impact entre les élections de nommer, d'élire des députés du Parti québécois. Mais en 2026, la question va se poser autrement. Et Pablo Rodriguez a déjà donné ses couleurs. Il va brandir l'épouvantail de la souveraineté.
Exact. Alors qu'il devrait brandir l'économie.
Mais c'est parce que pendant qu'on brandit des épouvantails, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on veut accomplir exactement. Et je n'en ai aucune idée pour l'instant, ça va être quoi sa vision.
Là, on a la Coalition Avenir Québec qui a fait ses campagnes électorales de centre-droit qui ont gouverné centre et centre-gauche. Fait qu'ils vont probablement avoir un nouveau chef ou une nouvelle chef qui va rentrer aux prochaines élections, qui va faire à peu près la même affaire, mais qui va vouloir gouverner de centre-gauche. On a Québec solidaire qui est à gauche. On a le PQ qui est centre-centre-gauche. On a Éric Duhaime qui score à peine à 10-15 % qui est de centre-droit ou droit un peu plus que centre-droit. Fait qu'avec un parti libéral qui va être au centre-gauche, là, je veux dire...
On n'a pas besoin d'un autre parti
non?
de centre. Mais moi, j'ai toujours pensé que le salut du Parti libéral, c'était beaucoup plus au centre. Je ne dirais pas centre-droit parce que ce n'est pas vrai, il n'y en a pas. Au
mais
Québec, on n'en a pas.
Mais au niveau de l'économie, là, dans l'état actuel des choses, au niveau de l'économie, de centre-droit, ça ne ferait pas de tort à personne.
Ben non, ben c'est exactement ce qui manque sur l'échiquier à ouais. l'Assemblée nationale. Puis je pense que, tu sais, vous voyez ce qui se passe en ce moment au fédéral avec Mike Carney qui est en train de couper l'herbe sous le pied complètement de Pierre Poilievre en prenant justement des politiques qui sont moins à gauche que celles de Justin Trudeau. Peut-être qu'un parti libéral un peu plus de centre-droit irait couper l'herbe sous le pied d'un Éric Duhaime et aller récupérer de ce côté-là. C'est sûr que l'électorat d'Éric Duhaime, des fois, on a l'impression que c'est des gens qui ont décroché un peu plus de la politique des partis traditionnels. Donc, je spécule, on jase. Mais moi, je pense qu'il va y avoir un rebrassage de cartes intéressant. Puis j'ai vraiment hâte pour pouvoir justement un peu deviner ça va être quoi la dynamique politique de 2026 pendant l'élection, de savoir c'est quoi la position de ce parti, le positionnement du Parti libéral du Québec d'ici 2026. Parce que pour l'instant, je n'en ai aucune idée.
François Legault, il reste à peu près 2 minutes, Antonine. Il va faire quoi en Europe?
Bon, en ce moment, évidemment, on cherche à diversifier nos marchés hein, avec tout ce qui se passe avec les États-Unis. En Europe, en France, M. Legault a participé à un événement sur l'intelligence artificielle. On sait que c'est un des créneaux intéressants, mais aussi l'aérospatiale. Il signe des ententes ces temps-ci entre Bombardier, entre des entreprises d'un peu partout. Il y a des bonnes nouvelles. Mais ce qui retient l'attention, malheureusement, comme c'est souvent le cas en politique, c'est ce que j'appelle en bon français le « sideshow ». c'est que M. Legault a décidé de faire son interprétation bien personnelle du « Vive le Québec libre » de Charles de Gaulle. Il l'aurait interprété un peu à sa sauce nationaliste, un Québec là, qui est plus autonome au sein d'un Canada.
Un Québec nationaliste?
Oui, mais c'est parce que c'était pas vraiment ça que Le Gaulle disait. Là. On parle d'une déclaration qui a eu lieu dans les années 60 dans un contexte de décolonisation à l'international. C'est connu et reconnu que M. de Gaulle parlait d'indépendance. Puis il a tellement mis un malaise avec le reste du Canada qu'il a été obligé d'annuler sa rencontre à Ottawa après avoir fait cette déclaration-là. Donc, M. Legault, là...
Mais admettons qu'il n'y a personne qui nous écoute, là. Est-ce que c'était intentionnel ou non intentionnel de la part de François Legault?
Bien, qu'il y ait des gens qui nous écoutent ou pas, je vais vous répondre la même chose. Je pense que quand il est dans le terrain économique, il dit des choses qui sont pertinentes, intéressantes.
Parce qu'il y a un
c'est une bonne mission.
D'affaires, là, quand
oui.
même, le gars.
Mais là, quand on tombe dans les interprétations historiques, honnêtement, je ne vois pas ce que ça apporte cette semaine, cette affaire-là. Puis,
Étais-tu déstabilisé?
Je pense qu'il réfléchit à haute voix.
Oui, c'est un gaffeur.
Clairement, gaffeur, oui.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Je ne pense pas que ça se voulait méchant ou quoi que ce soit ou organisé, mais je pense qu'il devrait s'en tenir à nous parler de développer des nouveaux marchés.
Regardez
avec
les enfants.
Antonine Iaccarini, je te souhaite de passer une super belle semaine. Un gros merci.
Bonne semaine.
On fait une courte pause et on vient. Boulevard 102.1. Marché.